Le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Histoire de ma recherche.
Quelle recherche mènent les doctorants ? Est-ce simple, enthousiasmant ou difficile de s'atteler à un travail de plusieurs années ? Aujourd'hui, Anaïs Lebert, doctorante à l'École doctorale des sciences de la mer et du littoral et au laboratoire AMUR, aménagement des usages des ressources et des espaces marins et littoraux, présente son sujet de recherche, les raisons de son choix, sa méthode de travail et ses premiers résultats. Le sujet de la thèse, l'intégration des exigences environnementales dans la politique maritime européenne. Est également présent un camarade de recherche, également doctorant en droit européen, chercheur au LabLex, le laboratoire de droit de l'UBO, Peyrane Plouinec. Merci, bonjour Peyrane.
Bonjour.
Et bonjour Anaïs.
Bonjour, je vous remercie pour votre invitation.
Ben, c'est le plaisir et pour moi. Donc Anaïs Lebert, donc vous êtes doctorante à Mur. Pourriez-vous, dans un premier temps déjà, présenter le parcours avant la thèse, c'est-à-dire peut-être on se situe là en master.
Oui.
Et présenter dans un premier temps les raisons pour lesquelles vous avez décidé de faire une thèse. Parce que c'est pas rien, c'est un travail gigantesque et voilà. Donc parcours et raisons de la thèse, de l'inscription en thèse.
Oui, alors déjà, je rappellerai que j'ai effectué ma licence de droit donc, à Brest, à l'Université de Bretagne occidentale. Ensuite, j'ai effectué un master 1 de droit public général à l'Université de Rennes. Et par suite, j'ai décidé de revenir à Brest pour effectuer mon master 2 de droit public général également. Je suis revenue à Brest parce que j'avais déjà dans l'idée de faire une thèse. J'avais beaucoup aimé les cours de Madame Kudenek, qui est ma directrice de thèse aujourd'hui, et je souhaitais travailler sur le droit de l'Union européenne. J'ai volontairement choisi de m'orienter vers un Master 2 de droit public général et non pas un Master 2 spécialisé en droit maritime, puisqu'aujourd'hui je travaille sur les aspects maritimes, car j'avais un profil, je dirais, principalement publiciste, en tout cas c'est vraiment le droit public qui m'intéressait. Et donc c'est pour cette raison que je ne me suis pas tout de suite spécialisée en droit maritime.
Donc il s'oppose à droit privé, c'est ça ?
Oui, droit public qui a distingué avec le droit privé. Et à Brest, il y a un master 2 de droit maritime qui est proposé, qui mêle le droit public et le droit privé. Voilà, donc moi j'ai effectué un master 2 de droit public général et durant cette année de master, j'ai effectué un mémoire sur le contrôle des activités de pêche. Lors de ce mémoire, je me suis plus particulièrement intéressée à la protection des mers et des océans. Et ça m'a donné envie de poursuivre en thèse et de travailler sur cette thématique générale qui est la protection de l'environnement marin. Alors, pourquoi avoir choisi d'effectuer une thèse ? Je dirais que c'est avant tout par curiosité intellectuelle. Non pas forcément dans une perspective carriériste. C'était pas forcément... lorsque j'ai commencé une thèse, je me suis pas dit que je souhaitais absolument devenir enseignant-chercheur, ni même faire de l'enseignement d'ailleurs au départ. C'était vraiment dans une démarche de curiosité intellectuelle parce que j'aimais apprendre de nouvelles choses. J'aimais lire, j'aimais écrire et donc la possibilité de travailler sur un sujet de thèse pendant plusieurs années m'enthousiasmait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'orienter vers un doctorat en droit public.
D'accord. Une collègue à vous m'a déjà dit la même chose, curiosité intellectuelle. Quelque chose de presque gratuit, quoi.
Oui, je pense qu'il faut vraiment avoir cette démarche-là de passion ou du moins cette curiosité-là pour s'engager dans une démarche aussi longue qu'un doctorat. Il faut prendre du plaisir, je pense, à travailler sur un sujet, à faire une thèse, parce que sinon les années sont longues.
Ça devient un cauchemar, oui. Alors que ça peut être un énorme plaisir si on est là pour les bonnes raisons. Hein. Alors après, le sujet, donc votre sujet, le problème que vous posez, c'est la protection de l'environnement marin. Pourquoi ce sujet, alors ?
Alors, pour plusieurs raisons. Je dirais la première, c'est d'abord l'intérêt que j'avais pour la protection de l'environnement en général. Je pense que quand on travaille sur un sujet qui porte sur le droit de l'environnement, on s'intéresse forcément, d'une manière ou d'une autre, à la protection de l'environnement. Il y a, si ce n'est une démarche militante, en tout cas un intérêt qui est forcément présent. Donc c'est la première raison pour laquelle j'ai décidé de m'orienter vers la protection de l'environnement. Et pourquoi la protection de l'environnement marin en particulier ? Je pense qu'il faut aussi le mettre en lien peut-être avec mon parcours personnel et avec mes racines personnelles. Je suis bretonne, je suis née à pas très loin de Brest et j'ai toujours été attachée à la protection du littoral breton et aussi des eaux marines de manière plus générale. Et on sait qu'en Bretagne notamment, il y a des enjeux environnementaux et des enjeux environnementaux propres à l'environnement marin qui sont particulièrement présents.
Et pourquoi le poser d'emblée au niveau européen ?
Alors, le sujet, je pense, aurait pu être traité aussi au niveau du droit interne, voire aussi du droit international. L'avantage du droit à l'Union européenne, c'est que c'est d'une certaine manière un droit carrefour, dans le sens où il s'articule avec le droit international et aussi avec le droit interne. Donc, travailler plus particulièrement sur les aspects maritimes au niveau de l'Union européenne, je pense que ça permettait d'avoir une réflexion particulièrement riche finalement. Et c'est aussi parce que concrètement, les règles juridiques qui sont appliquées en France proviennent en grande partie de l'Union européenne.
Dans le domaine maritime.
Dans le domaine maritime, tout à fait, oui.
D'accord. Donc là, on a un intérêt pour la défense, la protection de l'environnement. On a une juriste. Comment fait cette juriste pour construire une problématique, un sujet, un problème de droit, un problème de juriste, hein, entendons-nous, vous faites une thèse en droit et pas en biologie. Comment vous avez commencé à construire votre sujet et comment vous l'avez défini, comment vous allez le définir pour en faire un sujet de droit, une thèse en droit.
Alors d'abord, je dirais que lorsqu'on a un sujet de thèse aussi vaste que le mien, l'intégration des exigences environnementales dans la politique maritime européenne, il faut, comme vous l'avez rappelé très justement, définir les termes du sujet. Ce travail de définition qui est préalable à toute problématique, il est vraiment très important. Il est important et il est aussi chronophage parce qu'en général, on a tendance à les lire dans plusieurs directions, à parfois aussi s'éloigner pour un temps de son sujet pour finalement mieux y revenir. Donc, quand on commence une thèse, on lit énormément, on lit des choses en lien direct avec son sujet et on lit aussi des choses qui peuvent être accessoires mais qui vont nourrir la réflexion. À partir de là, une fois qu'on a lu, alors des articles de doctrine, évidemment, des auteurs, ça peut être aussi des décisions de justice, et bien évidemment la réglementation, c'est-à-dire le matériau juridique, le matériau juridique pur, ou du moins la matière première finalement du droit, de manière un peu triviale, qui est donc la réglementation. Et une fois qu'on a lu un certain nombre de choses, on parvient à dégager au fil du temps, une problématique. La problématique qu'on a au départ, qui va nous aider à construire un plan de thèse, c'est pas forcément la problématique qu'on aura à la fin de la thèse. Elle peut aussi évoluer tout au long de la rédaction de la thèse. Donc on a finalement, quand on commence une thèse, on a a priori un postulat de départ. On lit. Et à partir des différentes lectures, on affine cette problématique-là. Et je dirais que cette problématique-là, elle peut aussi s'affiner au fur et à mesure de la rédaction. Voilà. D'accord. Donc le questionnement juridique, il est présent dès le départ, mais il s'affine aussi au fur et à mesure de la thèse.
Donc un, vous avez la protection de l'environnement maritime. Et en deux, alors... Comment vous réduisez la question ?
La protection de l'environnement marin, c'est pas une problématique en tant que telle, c'est plutôt le point de départ, je dirais, de la recherche. Après, l'intérêt du sujet ou la manière dont j'ai problématisé mon sujet, c'est vraiment en m'intéressant à des aspects peut-être un peu plus théoriques aussi, et notamment sur le principe sur lequel j'ai travaillé, c'est-à-dire le principe d'intégration des exigences environnementales. J'ai cherché plus concrètement, à voir comment finalement l'Union européenne assurait la prise en considération des intérêts environnementaux dans le domaine maritime.
Et je me demandais aussi comment est-ce que finalement tu en es arrivé à ce questionnement. Tu es parti d'éléments assez larges, assez généraux. Comment tu en es arrivé à te questionner précisément sur cette politique-là et ses enjeux ?
Par rapport à d'autres politiques de l'Union européenne, tu veux
oui,
dire
oui, notamment ou tout ce que tu as pu lire, justement. Comment tu as pu faire émerger cette problématique et ces questionnements liés à cette politique intégrée?
Eh bien, je dirais en m'interrogeant d'abord sur la nature même de cette politique maritime européenne, j'ai aussi essayé de faire des comparaisons finalement entre donc avec d'autres politiques de l'Union européenne. Concrètement, l'Union européenne, elle a un certain nombre de politiques. Donc moi, j'ai travaillé sur une politique particulière en termes de politiques publiques, si vous voulez. J'ai travaillé sur une politique particulière et il y a aussi d'autres politiques de l'Union européenne qui peuvent être intéressantes à aborder au regard des enjeux environnementaux, comme la politique agricole commune, par exemple, la politique de la santé, etc. Et donc, ça a pu aussi être des points de comparaison pour affiner ma problématique et pour
Ça vous a permis de voir la spécificité peut-être de votre sujet.
Tout à fait, voilà. La politique maritime européenne, elle est vraiment spécifique.
La question de l'intégration se pose plus fortement.
Oui, tout à fait. La politique maritime européenne, elle est très particulière par rapport à d'autres politiques parce que c'est une des politiques au sein de laquelle, je dirais, la capacité d'intervention de l'Union européenne est la plus forte. L'Union européenne dispose de ce qu'on appelle des compétences juridiques. Disons qu'elle peut agir dans le domaine maritime plus que dans d'autres domaines, comme par exemple, je ne sais pas, le tourisme. Le tourisme, c'est un domaine pour lequel l'Union européenne intervient assez peu.
Donc c'est un lieu d'existence fort de l'Union.
Oui.
D'accord. Alors maintenant, on va rentrer dans le cambouis, dans le moteur du juriste. Vous avez un sujet général, vous l'avez transposé dans le domaine du droit et vous avez un sujet assez précis, l'intégration sur le droit maritime. Vous l'avez formulé déjà à partir de pas mal de lectures, de la jurisprudence, de la doctrine et de la réglementation. Vous en êtes là. Alors là, maintenant, comment commencer à échafauder les murs, comment vous faites à ce moment-là pour avancer sur le sujet et aller plus loin que le définir, quoi.
Oui. Alors, une fois qu'on a défini les termes du sujet et qu'on a finalement réussi à dégager une première problématique, la problématique qu'on a dégagée, qui n'est pas forcément la problématique définitive, mais la première problématique qu'on parvient à dégager, elle va orienter les lectures. Et à partir de là, on va essayer de dégager un plan de thèse. L'étape de la rédaction du plan de thèse, elle est cruciale en droit, mais je pense comme dans toutes les autres disciplines, c'est vraiment une étape fondamentale. Disons que c'est souvent le moment, l'un des moments les plus importants, mais aussi l'un des moments les plus difficiles. Parce que au moment de la construction d'un plan de thèse, il faut essayer non seulement d'avoir une pensée qui soit logique, évidemment.
Vous faites plan de thèse dès le début, vous faites le plan de thèse?
Oui.
D'accord.
Lorsqu'on dit dès le début, c'est pas forcément au stade de la non, c'est pas forcément au stade de la première année. C'est plutôt, je dirais, dès la deuxième année de thèse où l'on commence à travailler sur un plan
d'accord.
de thèse.
Et voilà. Là, c'est quoi vos éléments alors pour construire ce plan? C'est quoi vos...
On part de la problématique nécessairement.
Ouais,
à partir du moment où on a échafaudé une problématique, une esquisse de problématique, on va construire un plan de thèse. Cette étape-là du plan de thèse, elle est importante et elle peut être plus ou moins longue. Souvent, bien souvent, au fur et à mesure de la rédaction, on affine aussi ce plan de thèse.
D'accord. Moi, j'ai bien compris que le matériel, le matériau, je sais pas, du jury, c'est des textes. Comment vous avez délimité, parce que bon, ça peut aller très 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 loin, il n'y a pas le code, tout ça, ce n'est pas des réunions d'un code. Comment vous faites, quels repères vous avez pour délimiter vos lectures non seulement en droit, mais peut-être aussi en sociologie, en philo, je ne sais pas, c'est intéressant d'en parler, en économie, etc.
La question de la délimitation, la délimitation du sujet, elle suppose de faire des choix. On sait de toute façon, lorsqu'on rédige une thèse, qu'on ne pourra pas aborder tous les aspects du sujet. Moi, par exemple, dans mon cas d'étude, j'ai assez peu abordé finalement les aspects internationaux de la politique maritime européenne. J'ai fait ce choix parce que ça m'a semblé être le plus plus opportun, ou du moins celui qui me permettait de, qui me permettrait de terminer aussi ma thèse. Donc c'est la délimitation du sujet et la délimitation des lectures, forcément, c'est oui. l'heure des choix, finalement. C'est à ce moment-là qu'on décide d'orienter le sujet vers telle ou telle direction, au regard de ce qui nous semble être le plus opportun, et aussi peut-être de manière plus pragmatique au regard des thématiques sur lesquelles nous sommes plus à l'aise. Parce que forcément, lorsqu'on est juriste, on a un parcours derrière nous et on est plus ou moins à l'aise sur certaines thématiques plutôt que d'autres. Forcément, moi, je l'ai aussi perçu dans le traitement de mon sujet. J'ai davantage insisté sur les aspects, sur le droit public de l'Union européenne, mais aussi sur le droit interne, puisque j'avais un profil, comme je vous disais tout à l'heure, de droit public général. J'ai par exemple abordé les aspects peut-être plus administratifs de mon sujet et un peu moins les aspects internationaux. Donc, oui. lorsqu'on délimite le sujet, c'est vraiment l'heure des choix. Les choix qui sont effectués, ils peuvent être discutés, indéniablement. Une autre personne aurait probablement appréhendé de manière différente le sujet. Et c'est aussi là, finalement, qu'on dessine sa vision du sujet et qu'on s'approprie le sujet.
Et est-ce que finalement, arriver
à... Je précise, il y a Peyran Pouinec qui parle là, qui est aussi doctorant en droit et en droit européen. Donc, excusez-moi Peyran.
Oui, est-ce que finalement tu as aussi pu faire émerger, à l'issue de ta réflexion, des pistes ultérieures qui pourraient donner lieu là aussi à des sujets de réflexion, à des thématiques d'études, et non pas que tu regrettes, mais que tu penses qui pourraient constituer des prolongements opportuns de ta recherche.
Je précise, Peyran est en train de faire une thèse, donc il fait part peut-être de ses propres interrogations.
Ah, en partie, sûrement.
Oui, merci Peyran.
Alors oui, je pense que quand on arrive à l'issue de sa thèse, il y a forcément de nouveaux questionnements qui émergent et qui pourraient permettre l'élaboration finalement d'une autre thèse.
Que ça, je c'est intéressant, pas. Et comment vous coupez la branche?
Oui. Alors, c'est au moment où l'on fait des choix, on se dit aussi que peut-être finalement, on pourra aborder ça plus tard. D'accord. J'évoquais justement les aspects internes et externes de la politique maritime européenne. Eh bien, je pense que les aspects extérieurs de la politique maritime européenne, ça fait partie des thématiques de recherche que j'aimerais aborder dans le futur.
Vous pourriez préciser interne, externe, parce
oui,
que ça fait
oui,
plusieurs
oui.
fois que vous utilisez le terme.
Oui,
et...
oui, oui. Alors, la politique maritime européenne, elle a des dimensions internes, c'est-à-dire lorsque l'Union européenne adopte une réglementation en matière de pêche, par exemple, eh bien, la réglementation qui a été adoptée, l'acte juridique qui a été adopté, s'applique au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire s'applique à l'ensemble des États qui sont partis à l'Union européenne. Donc ça, c'est la dimension interne de la politique. Et cette politique-là, elle a également une dimension externe ou extérieure. Et là, ça désigne davantage les relations qui sont nouées entre l'Union européenne et d'autres organisations
d'accord.
internationales.
Très bien, oui. Vous n'avez pas parlé des disciplines qu'on appelle en droit, je crois, annexes, connexes, sociologie et autres sciences humaines. Est-ce que vous avez quand même lu, je ne sais pas, un livre d'économie sur la pêche, un livre de sociologie, je ne sais pas.
Oui, j'ai...
Parce que vous êtes dans un laboratoire, en plus, vraiment transdisciplinaire, faut le mentionner. Hein.
Oui, oui, tout à fait. Le laboratoire dans lequel j'ai effectué mes recherches est un laboratoire... mixte qui mêle le droit, les sciences juridiques et les sciences économiques. Et l'école doctorale des sciences de la mer et du littoral est une école doctorale pluridisciplinaire qui regroupe des chercheurs en droit, en économie, mais aussi en sciences naturelles, notamment des océanographes, par exemple. Donc, disons que effectuer des recherches dans des disciplines annexes au droit, je pense, c'est indispensable ou presque pour appréhender un sujet de thèse. En droit, mais aussi dans d'autres disciplines. Je l'ai fait, évidemment. J'ai lu quelques articles en sociologie et plus particulièrement en sciences politiques et en géopolitique, puisque mon sujet de thèse s'y prêtait bien. Lorsqu'on travaille sur le droit de l'Union européenne particulièrement, je pense qu'il est intéressant d'étudier la science politique, d'étudier des articles en lien avec son sujet qui s'inscrivent en sciences politiques. Par exemple, j'ai plus particulièrement lu une thèse portant sur l'Arctique.
L'Arctique, oui.
Oui, qui en sciences politiques, qui m'a intéressée. Alors, pour le sujet, évidemment, sur l'article, mais au-delà de ça, sur la méthodologie qui était faite aussi dans ce sujet de thèse, sur la notion de politique intégrée, par exemple, que j'aborde
mais
dans ma thèse.
C'était une thèse de droit.
Non, c'était une thèse en sciences politiques.
En sciences politiques, pardon. Oui. Oui, ah oui, d'accord. Oui. Là, il y a les rapports de force, etc.
Oui. Et les questionnements qu'on peut avoir en droit peuvent être aussi appréhendés à travers la science politique. Et je pense que lorsqu'on fait du droit à l'Union européenne, particulièrement, les recherches en sciences politiques sont indispensables.
Et sur la question du terrain lui-même, est-ce que vous êtes, est-ce que vous avez été voir des acteurs, des pêcheurs, des est-ce que vous avez lu quelque chose sur les grandes menaces, enfin de ce qui pèse sur l'environnement marin où c'était pas utile, il suffisait de trouver ces problèmes-là décrits dans des textes de droit.
Alors, à titre personnel, je n'ai pas décidé de faire un travail de terrain. En revanche, si je devais aujourd'hui refaire ma thèse, je pense que, justement, j'irais interroger des acteurs du milieu marin, du milieu maritime. Je pense que ce travail de terrain-là, il est assez peu effectué dans les sciences juridiques. On a plutôt tendance, comme vous le disiez, à orienter nos recherches vers les textes, donc le matériau juridique, la doctrine, la jurisprudence, etc. Et en réalité, je pense que interroger des acteurs du monde maritime comme les pêcheurs, comme les personnes qui travaillent aussi dans le tourisme maritime, par exemple, ça aurait été intéressant et ça aurait apporté une autre vision de mon sujet. Je ne l'ai pas fait parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une thèse, c'est aussi un moment où on fait des choix. Oui. Mais je pense que ça aurait pu l'être. Et si c'était à refaire, je crois que je le ferais. Et je pense que dans les années à venir, il y a peut-être aussi une ouverture à faire des sciences juridiques vers ce travail de terrain-là qui pourrait être intéressant.
Peut-être pour poursuivre sur la question de la pluridisciplinarité ou de l'interdisciplinarité des disciplines un peu voisines que tu as mobilisées, est-ce que ça t'a permis de voir les choses sous un angle différent et notamment au regard peut-être de l'effectivité du droit, c'est-à-dire comment est-ce que concrètement le droit a pu se mettre en œuvre et est-ce que ça ne peut pas mettre en avant justement ce regard croisé, les difficultés qu'a le droit à se mettre en œuvre concrètement au-delà des textes?
Oui, je pense que la réflexion, ta question, Béran, est tout à fait pertinente. Lorsqu'on s'interroge sur l'effectivité, alors lorsqu'on parle d'effectivité, c'est notamment, on s'interroge notamment sur le fait de savoir si une règle de droit est appliquée ou non. Oui. Lorsqu'on travaille sur ces questions d'effectivité, je crois qu'on est presque obligé finalement d'aller au-delà des textes et de se demander pourquoi finalement le droit n'est pas appliqué, pourquoi le droit est ineffectif. Il y a d'autres éléments qui peuvent être, je pense, pris en considération, comme par exemple l'acceptabilité sociale des normes juridiques. Oui. Comment chaque citoyen va appréhender une norme juridique? Comment est-ce qu'il a déjà connaissance de cette norme juridique? Et est-ce qu'il va l'appliquer? Pourquoi il ne l'applique pas s'il ne le fait pas? Et ça c'est, je pense que c'est des questionnements qui doivent être intégrés dans toute démarche relative à l'effectivité. Dans mon cas à moi, je me suis plus précisément concentré sur l'effectivité juridique. Donc j'ai travaillé sur l'inapplication du droit au regard vraiment de ces enjeux juridiques, c'est-à-dire sur le rôle du juge, par exemple.
Sur le rôle du juge.
Oui. Voilà. Sur le rôle du juge. Mais je pense également que lorsqu'on aborde les questions d'effectivité du droit, il faut aller au-delà des textes et intégrer dans sa démarche scientifique d'autres éléments empruntés à d'autres disciplines, comme
oui,
par exemple aussi la sociologie.
La place du juriste et du droit dans un problème plus général,
oui.
Dans lequel le juriste est un élément parmi d'autres. Parce qu'il y a des forces économiques, il y a des forces juridiques, il y a plein de forces en jeu. Alors, on va parler de résultats. Alors, c'est intéressant de discuter avec des juristes de résultats parce que je sais par expérience, Perrane, que j'ai déjà interviewé, que les résultats en droit ne se définissent pas de la même manière, en tout cas pour un doctorant, en tout cas, et même pour des juristes. Vous l'abordez pas du tout de la même façon que les sociologues, les biologistes, les physiciens. Ceci étant, la question se pose tout le temps quand même. À ce stade, vous soutenez demain, faut le dire quand même. Merci d'être là d'ailleurs à la veille de cette soutenance. Hein. Merci beaucoup. Donc vous soutenez demain avec des résultats. Le résultat, c'est le travail de thèse. Et il y a peut-être d'autres résultats. Donc, je vais décliner ma question. Les résultats, ça peut être un article que vous avez écrit. Alors, intéressant que vous l'avez fait sur le sujet ou pas sur le sujet. Ça peut être la thèse, ça peut être une nouvelle vision du problème. Par exemple, vous parlez de principes d'exigence, d'intégration au niveau européen, des précautions à prendre avec la mer. Est-ce que cette compréhension de l'exigence, enfin de l'intégration de ces principes dans le droit européen vous donne une nouvelle lecture du problème de la pollution, de la... Voilà. Donc, répondez peut-être sur l'article, sur le résultat spécifique du juriste, sur les précautions à prendre avec les résultats quand on est encore doctorant, et sur éventuellement des résultats plus intime, qui serait une nouvelle vision de problèmes liés à la protection de l'environnement marin.
Alors, lorsqu'on rédige une thèse en droit et de manière plus générale dans les sciences juridiques, la rédaction d'une conclusion n'est jamais quelque chose de facile à faire. En tant que juriste, on est assez peu familiarisé, si je puis dire, dans les conclusions, dans la rédaction d'une conclusion. Par exemple, lorsqu'on rédige une dissertation en droit dans le cadre de nos études, la conclusion est jamais, voire jamais requise. Donc c'est un exercice sur lequel on est finalement assez peu à l'aise en tant que juriste. Et la difficulté aussi quand on rédige une thèse, en droit, mais je pense aussi dans d'autres disciplines, c'est de prendre du recul sur son travail et d'arriver à dégager un certain nombre de conclusions. L'une des conclusions, je pense, à laquelle je suis arrivée à l'issue de ce travail de thèse, c'est de finalement me rendre compte que l'intégration, donc les exigences environnementales, les intérêts environnementaux, sont réellement pris en compte dans la sphère maritime. Je crois que ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, on remarque que...
D'accord, il y a un travail de fait, de fond.
Oui, il y a
des résultats.
Il y a une réelle démarche de l'Union européenne de prendre en considération ces intérêts environnementaux. On voit qu'il y a une réelle transformation, finalement, des politiques publiques liées à la mer au regard des enjeux environnementaux. Par exemple, dans le cadre du transport maritime, le transport maritime a longtemps été considéré comme un moyen de transport propre, c'est-à-dire un moyen de transport qui avait un impact environnemental relativement faible. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'en réalité, non, le transport maritime émet des émissions de gaz à effet de serre. Il a des conséquences environnementales importantes. Et aujourd'hui, progressivement, on voit que l'Union européenne, elle intègre ses exigences environnementales et qu'elle œuvre considérablement pour réduire l'impact environnemental du transport maritime. Donc je pense que ça, c'est la première conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est qu'il y avait une réelle volonté, une réelle démarche de l'Union européenne de prendre en considération ses intérêts environnementaux.
Sur ce point-là, moi j'ai une question personnelle, je dirais. Est-ce que par cette politique environnementale, l'Europe s'affirme ? Est-ce qu'elle est reconnue comme nécessité plus dans la pêche que dans d'autres domaines peut-être les États, par tous les États membres ?
Alors, et peut-être est-ce que justement cette politique-là peut être un modèle ou quelque chose qu'on peut reproduire dans d'autres politiques ou d'autres secteurs d'activité de l'Union européenne pour l'avenir ou pour mieux construire le droit européen ?
Je pense, oui, ça fait aussi partie des résultats auxquels je suis arrivée. Je pense que la démarche qui est faite par l'Union européenne dans le domaine maritime est une démarche qui peut s'exporter à d'autres politiques, voire à d'autres États. La méthodologie, la manière dont l'Union européenne prend en considération les intérêts environnementaux, eh bien, cette manière-là, elle peut être utilisée dans d'autres États, voire à d'autres politiques. C'est un modèle ou du moins, si on peut peut-être parler de modèle ou du moins d'enseignements généraux qui peuvent être dégagés et qui pourront ensuite être réutilisés dans le cadre d'autres politiques ou dans le cadre... Ouais.
D'où l'intérêt de s'en tenir au principe, enfin de creuser la question des principes.
Oui, tout à fait.
Et des grands processus d'intégration. Ouais.
D'avoir une réflexion générale sur ce principe au-delà des aspects maritimes, si je puis dire. Sur votre question de tout à l'heure également, je crois que L'affirmation de l'Union européenne en tant qu'acteur de la protection de l'environnement marin, elle ne se pose pas tant au niveau des États, mais plutôt sur la scène internationale, où ça aussi c'est une perspective de réflexion qui est intéressante. Est-ce que finalement l'Union européenne est un acteur...
Ça c'est une grande question aujourd'hui. Alors, est-il un acteur important pour le domaine de l'environnement marin?
Oui, je pense à l'issue de ce travail de recherche, je pense que la place de l'Union européenne sur la scène internationale pour la protection des mers et des océans, elle est indéniable. Malgré tout, l'Union européenne pourrait encore gagner en importance et avoir un rôle encore plus moteur, je dirais, pour la protection des mers et des océans.
D'accord. Quelles difficultés, tu dirais, alors justement, quelles sont les difficultés de l'Union européenne pour émerger encore plus comme un acteur moteur du développement des droits de l'environnement au niveau international?
Eh bien, l'une des difficultés à laquelle l'Union européenne est confrontée est déjà sa place dans les autres organisations internationales, puisque l'Union européenne, rappelons-le, est une organisation internationale. Au sein d'une organisation internationale, il y a des membres, des parties, et il peut y avoir l'Union européenne, mais aussi des États. Et notamment des États membres de l'Union européenne. Par exemple, au sein de l'Organisation maritime internationale, qui est une organisation internationale très connue pour la protection de l'environnement marin notamment, eh bien, au sein de cette organisation internationale-là, les États membres de l'Union européenne sont déjà partis. En conséquence, l'Union européenne, elle ne peut pas être aussi membre de cette organisation internationale-là. Ce qui fait que sa capacité d'action, elle est forcément limitée. Et elle nécessite aussi pour les États de se mettre d'accord, d'avoir une vision commune dans le domaine de la protection de l'environnement marin.
Une grande question, la vision commune. On va, parce que là, le temps file à toute vitesse. Petit exercice de fiction, l'avenir. Une thèse, c'est un travail gigantesque, ça vous transforme, ça transforme votre recherche, ça transforme le droit, enfin, c'est-à-dire vous contribuez à quelque chose. Et c'est aussi des compétences, c'est aussi un diplôme, peut-être moins bien reconnu en Europe qu'aux États-Unis, mais c'est un diplôme important, enfin en France. Est-ce que vous avez des projets, vous vous projetez là, donc Anaïs, 3 ans plus tard, ou 2 ans plus tard, ou je ne sais pas, avec plusieurs parcours possibles, plusieurs trajectoires, plusieurs visées. Bon, on est dans la fiction, hein, mais peut-être quelques éléments de projection là, après la thèse.
Oui. Après la thèse, donc comme je le disais tout à l'heure, je soutiendrai ma thèse demain. Je pense que je vais déjà prendre un temps de repos nécessaire et aussi de digestion après avoir travaillé aussi longtemps sur un sujet. Ensuite, je crois que je pense être assez ouverte, disons, sur les perspectives professionnelles. J'ignore encore le métier que j'exercerai. En revanche, ce que je suis certaine, c'est de continuer à toujours m'intéresser à la protection des mers et des océans. Qu'importe le métier que j'exercerai, j'espère toujours continuer à écrire des articles et, si possible, à enseigner à l'université, puisque j'ai vraiment aimé cette expérience-là. L'accès à l'université.
Oui, on peut préciser, parce que c'est notable, votre thèse a été financée. Oui. Et vous avez aussi enseigné, donc voilà, c'est passé dans les très bonnes conditions.
Ouais. Oui, j'ai eu la chance d'obtenir un financement et j'ai également enseigné pendant 4 ans à l'université, dont 2 années à temps plein dans des matières pour lesquelles qui n'avaient rien à voir finalement avec ma thèse. Donc c'était aussi un moment d'enrichissement intellectuel pour moi.
Et finalement, rétrospectivement, après ces années de thèse, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à, par exemple, un étudiant en Master 2 qui nous écouterait, qui se poserait la question peut-être de faire une thèse l'année prochaine? Qu'est-ce que tu lui dirais au regard de ton expérience maintenant?
Les points de vigilance, peut-être.
Oui.
Alors, je dirais d'abord à cet étudiant que la thèse est une grande aventure intellectuelle. Je crois que c'est un moment dans la vie qui est absolument unique. C'est un moment où on peut réfléchir pendant plusieurs années sur un sujet. C'est un moment de maturité intellectuelle aussi qui est vraiment très important. Donc, de ce point de vue-là, je pense que la thèse est un exercice intéressant. Je dirais aussi à cet étudiant de se poser les bonnes questions et de se demander pourquoi il veut faire une thèse finalement. Est-ce que c'est comme moi par curiosité intellectuelle ou est-ce que c'est parce qu'il veut, il veut vraiment devenir enseignant-chercheur à l'université, auquel cas, forcément, il faut passer par la thèse. Lorsqu'on veut être enseignant-chercheur à l'université, qu'on est certain de vouloir faire ça, il faut rédiger une thèse. Si c'est pas le cas, si cet étudiant il souhaite s'orienter vers une thèse par curiosité, mais aussi peut-être de manière plus pragmatique parce qu'il n'est pas encore prêt à rentrer sur le marché du travail, je lui dirais d'être vigilant et de bien se renseigner sur les conditions de la thèse et d'être aussi conscient de la longueur et de la difficulté, des difficultés auxquelles on fait face en tant que doctorant. Il y a les difficultés financières que vous évoquiez tout à l'heure que moi, je n'ai pas eu, j'ai eu la chance de ne pas les avoir. Mais il y a aussi les difficultés intellectuelles, la gestion du temps qui sont importantes. Ça suppose rédiger une thèse, ça suppose de se mettre devant son ordinateur 7 heures par jour, de rédiger, d'analyser et d'écrire. Donc ça impose un effort intellectuel constant sur la durée. On dit souvent que la thèse est un marathon et non pas un sprint, et c'est exactement ça. Donc il faut tenir sur la durée, et je pense que c'est ça le plus difficile dans une thèse.
Oui, c'est à la fois une jouissance et un calvaire intellectuel, et si on n'a pas envie d'aller là, faut pas forcément s'engager. Eh bien, on va conclure sur ces conseils aux futurs doctorants. Merci à Anaïs Lebert, docteur au laboratoire AMUR, aménagement des usages des ressources et des espaces marins et littoraux. Dans le prochain numéro du Lab U, Valère Ndior présentera l'ouvrage qu'il a dirigé et qui vient d'être publié, le Dictionnaire de l'actualité internationale. À suivre dans le prochain numéro du Lab U. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur la page des bibliothèques universitaires de l'UBO.
Le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Histoire de ma recherche.